cours de philosophie éthique pour le père Philippe à Saint-Joseph le 22 janvier 86.
Nous avions essayé de saisir ce que représente ce premier amour spirituel à l'égard d'un bien spirituel qui est la personne humaine. Dans tout amour d'amitié, il y a un amour premier, fondamental. Alors la question peut se poser, à quel moment cet amour spirituel a-t-il commencé ? On ne peut pas le savoir. Mais c'est très important de le poser. Et c'est ça que la psychanalyse ne peut pas saisir. Et c'est là où la psychanalyse, dans toutes ses conclusions, ne seront pas exactes. Parce qu'il y a quelque chose qui lui échappe, ce premier amour spirituel. Pour un psychanalyste, on considère le tout petit enfant comme un petit animal. Ce sont les besoins de la nourriture, les besoins de sécurité, les besoins de la présence. On oublie que pour l'homme, et le tout petit enfant est un homme, il y a quelque chose qui est au-delà des besoins, qui est l'amour, et qui touche la personne, et qui atteint la personne. Et que c'est cela qui est premier. Et cela reste caché. Ça se manifeste par le sourire. Les besoins ne font pas sourire. Ça, ils ne se sont jamais posé la question. Ils arrêtent de se demander pourquoi l'enfant sourit. Regardez un animal, il a des besoins naturels de se nourrir. Vous l'avez jamais vu sourire devant sa soupe. Jamais. Parce que justement, il n'y a qu'un appétit naturel qui commande les besoins. Tandis que dans l'enfant, il y a un amour spirituel qui touche la personne. On sourit non pas à sa soupe, d'être un peu malade. Quand vous voyez quelqu'un qui sourit à sa soupe, vous dites, ça va plus très bien. Tandis que quand il sourit à celui qui est proche, à une personne, ça va. Quelqu'un qui ne sourit jamais, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors il faudra arriver à le faire sourire. Pas commode de dérider quelqu'un qui est trop dans l'impératif catégorique, qui est dans une formalisation trop grande. Alors on ne sourit plus. Oui, on est tendu le bloc. Le sourire détend. Ça c'est sûr. Pas un sourire commandé. Le sourire du métro à minuit à New York. Celui-là, il ne détend pas, c'est un sourire commandé. Le sourire japonais, qui est extraordinaire. Vous savez bien, quand on veut arrêter une colère, il y a un rictus, un sourire, ça s'arrête. Et vous allez essayer, vous allez voir. Il faut se dominer pas mal. Et on arrive à se dominer, on fait ça. Parce que le sourire détend. L'enfant qui sourit momentanément ne pense plus à sa soupe. Alors on dira, c'est un transfert. C'est pas un transfert, c'est une élévation. Le plus penser à sa soupe et penser à la mère qui lui apporte la soupe. Et comme la soupe est retardée, ou le lait est retardé, le transfert, c'est quand on passe horizontalement d'un bien à un autre bien. Vous voyez bien, le transfert, c'est très simple. Un gosse pleure. Vous prenez une petite clochette, puis vous faites teinter la clochette. Tiens. Alors, il s'arrête. Ça, c'est un transfert. C'est horizontal. Tandis que le sourire est vertical. Il monte. Parce qu'il passe de la soupe à la mer. À une présence. Vous souriez à quelqu'un qui est présent. Et je crois que la première manifestation de cet amour dans ce qu'il a de plus fondamental, ce n'est pas la parole, c'est le sourire. Je crois que c'est le signe de la présence de ce premier amour. C'est très important pour nous de voir comment se manifeste ce premier amour. Je crois que ce premier amour, qui est une présence, qui est une connaturalité avec ce bien, qui implique un amour spirituel qui me fait sortir de moi et accueillir ce bien. Puisque tout amour implique l'extase et l'accueil, quand il s'agit d'un amour spirituel. Donc implique une présence de quelqu'un qui est à la fois présent, au plus intime de moi-même, et qui est au-delà de moi, qui est au-delà de moi et qui est présent à moi. L'amour fortifie et rend vulnérable. Toutes les qualités particulières de l'amour qu'il faut saisir et comprendre que l'amour se manifeste par la joie de la présence. Et la joie de la présence se traduit dans le sourire. C'est une détente. La joie est une détente. Et le sourire exprime cette joie de la présence. Donc, il y a là quelque chose de très important pour nous à saisir. Mais le sourire d'un enfant, c'est toujours quelque chose de très important à saisir. Parce qu'on ne falsifie pas un sourire. Un gosse n'est impossible. Je sais bien qu'un gosse ne falsifie pas non plus la parole. C'est les grandes personnes qui falsifient la parole et même le sourire. Le sourire est un signe naturel. Il est le même dans toutes les langues. Il est le même dans toutes les civilisations. Il est quelque chose de très, très fondamental. Et il exprime ce premier amour. Alors, comment passons-nous du bien à la fin? L'intention de vie se porte sur le point de vue de la fin. Et pas seulement sur le bien. La fin, c'est un principe. Le bien, c'est une réalité. Hein, comprenez bien la différence qui existe entre les deux. Le bien, il existe. J'ai une personne qui m'attire, qui est bonne pour moi. Alors il y a une attirance, une attraction. C'est spontané, c'est direct, c'est immédiat. Et le bien spirituel attire spirituellement et suscite cet amour. Donc le bien existe. Il y a une manière d'exister. Et le bien personnel a une existence personnelle, substantielle. La fin est un principe que je découvre. Il y a donc une induction pour découvrir la fin. Il y a une induction. Une induction dans l'ordre pratique, qui est une induction peut-être la plus facile à saisir. Et capitale. Et c'est parce qu'elle est tellement facile à saisir qu'on oublie. Comment avez-vous été orienté vers une fin? problème. Comment le bien est-il devenu pour vous fin? Comment êtes-vous passé de cet amour fondamental et premier à l'intention de vie? La fin polarise, spécifie, détermine une intention de vie. Vous voyez, autre chose est d'aimer, autre chose est de mobiliser toutes mes forces pour tendre vers ce bien, comme vers ma fin. Il y a quelque chose de beaucoup plus conscient. Ce premier amour, il est quasi inconscient, il est quasi naturel. C'est pour ça que le sourire de l'enfant, il est quasi naturel. Quand vous souriez, oui, vous avez conscience de sourire, c'est sûr. Mais c'est quasi naturel de sourire quand on aime. Quand on aime plus assez, on ne sourit plus. C'est pour ça que ça inquiète de voir une personne qui ne sourit plus. Ce que vous dites à ce moment-là, c'est l'impérium catégorique qui remplace le point de vue de la fin. Faites sourire un gendarme. Il faut toujours arriver à faire sourire un gendarme. Il est beaucoup plus détendu et il ne vous donnera pas d'amende. S'il sourit. Tandis que s'il ne sourit pas, service commandé, ça y est, automatique. L'amende est immédiate. Si vous arrivez à le faire sourire, vous rétablissez un ordre de personne. Oh, c'est tout à fait différent. Et alors, quand il y a un ordre de personne, il y a la clémence. Avant d'être un feu rouge, il était orange. Alors, oui, c'est le sourire, ça. C'est très curieux, cette petite expérience. Faites un petit peu attention. Monsieur le gendarme, je voudrais que vous souriez un tout petit peu avant de prendre votre carnet hein, et de faire la demande. Regardez-moi, vous allez rire. Arriver à faire sourire, c'est vrai. C'est faire sourire quelqu'un, c'est l'empêcher de rester à l'impérium catégorique. C'est l'empêcher de rester à cette attitude de l'impératif catégorique. C'est de le faire dépasser le devoir. Et c'est de le mettre en présence d'une personne. C'est tout à fait différent. Bon. L'amour éveille le sourire. Je passe de l'amour à l'intention de vie. Le bien devient pour moi une fin. Et cette fin s'impose à moi comme un bien capable de mobiliser toutes les forces. Voyez, le passage du bien à la fin implique une connaissance beaucoup plus nette. J'aime quantité de choses, puis je me détermine. Il y a une détermination dans toute intention. Une détermination à l'intérieur de l'amour et dans l'amour. Et cette détermination, elle n'est pas si commode que ça à faire. On aime mieux de rester dans le vague de l'amour et du berceau. Oui, l'amour peut très bien, c'est un fait, l'amour peut très bien rester uniquement à un niveau d'amour sans détermination. Ça existe. C'est très très joli, le sourire de l'enfant, mais quand ce sourire reste toujours un sourire de l'homme qui devrait prendre des décisions et qui, à la place de prendre des décisions, continue de sourire. Il y a quelque chose qui ne va plus. Soyez béant, un peu naïf. On a envie, à ce moment-là, de lui donner un coup de pied en disant « Mais quand même, décide-toi !» C'est plus le moment de sourire. Décide-toi. Il faut passer à la fin. L'impérium, l'intention de vie. Donc, il y a une part intellectuelle beaucoup plus grande. Et cette part intellectuelle permettra l'induction. Alors, on va essayer de comprendre cette découverte de la fin au niveau éthique, pas au niveau métaphysique, au niveau éthique. Oui, il y a l'induction de la philosophie première, il y a l'induction éthique. Ce sont les deux extrêmes du mouvement inductif de l'intelligence, je crois. On pourrait dire que l'induction au niveau de la connaissance artistique est peut-être plus manifeste, mais elle est moins première. De sorte que je peux dire que les deux inductions extrêmes de toute la philosophie, c'est celle de l'éthique et c'est celle de la philosophie première. Et ça se rejoint. Oui. Alors, quand j'aime un bien. Ce bien peut être relatif à un autre bien. C'est la question du transfert que je vous disais tout à l'heure. Ce bien sensible peut être relatif à un autre bien sensible, et le transfert fait passer un bien sensible à un autre bien sensible. Ce bien sensible peut manifester un bien absolu. Et la découverte de ce bien absolu se fait comme un dépassement du bien sensible visible. Quelque chose qui commande tout cela. C'est là où l'induction joue. L'induction, c'est toujours, à partir du multiple, la découverte de l'un. C'est ça le propre du mouvement inductif. Je fais l'expérience d'une quantité, une expérience affective, une expérience aimante. Je fais l'expérience de biens multiples, sensibles. Le lait, la respiration, le souffle, le tintement d'un jouet. Et puis alors, pour vous, pour nous, parce que l'enfant, il ne fait pas l'induction, je ne crois pas. Très curieux du reste, hein. Comment il aime sa mère. Il aime sa mère liée au lait maternel, liée à la tendresse, liée à la mère qui chante pour l'endormir, qui le secoue pour qu'il ait l'impression d'être porté, et ainsi de suite, vous voyez. Tout le nid maternel. Dans le nid, il y a beaucoup de choses. Il y a des petites plumes, des petites heures, puis il y a une chaleur du nid. Et la mère est liée à tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'induction, là. L'enfant, il aime. Et il aime le bien sensible lié à sa source. Il aime. Alors, y a-t-il de vrais transferts pour l'enfant? Je crois que la présence de la mère empêche les transferts, contrairement à ce que disent les psychanalystes. Parce qu'ils oublient la présence de la mère. Et c'est pour ça qu'ils parlent de transfert. Mais ce serait très intéressant de savoir s'il y a un vrai transfert, quand il y a la source c'est du grand bien. La nourriture, le tintement de la petite sonnette, c'est la mère qui l'agite. Il y a la nourriture. C'est la mère qui fait les deux. Donc, ça fait partie du nid. Et ça fait partie de ce climat dans lequel l'enfant aime. Celle qui lui donne la nourriture. Celle qui le fait attendre, qui le fait patienter, qui l'empêche de crier, et ainsi de suite. Tout un climat. Ce climat n'applique aucune induction. Il aime naturellement sa mère. C'est ça qui est très particulier, cette induction. L'amour n'a pas besoin d'induction. C'est l'intelligence. L'amour est naturel. Et naturellement, l'amour spirituel se porte sur le bien spirituel, sur la personne. C'est direct. C'est immédiat. L'intelligence est inductive par l'amour. Or, quand il s'agit justement de cette analyse que nous faisons au plan éthique, nous prenons quelqu'un qui est parfaitement conscient, c'est-à-dire nous, et non pas l'enfant. Ne cherchez pas l'induction de l'enfant. Vous ne la trouverez jamais. Parce qu'il aime spontanément, naturellement. Et la mère est liée à toute une série de biens sensibles. Et puisque la mère est liée à toute cette série de biens sensibles, je ne sais pas si le transfert n'est pas une projection. Il faut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas une projection? Parce que l'enfant ne raisonne pas. Il aime. Et c'est la même source qui lui donne l'aliment, qui lui donne quelque chose, un petit objet qui le fait patienter, qui lui donne... C'est le même. Là, on fait passer de l'un à l'autre, mais c'est toujours la présence de la mère. Si la mère n'était pas là, il pourrait y avoir un transfert. Et la mère supprime les transferts. C'est très curieux, ça. Je crois qu'on peut le dire. Ça, c'est un point important, parce que c'est génétiquement la naissance de cet amour spirituel. Je prends pour nous, où nous pouvons raisonner, je dis bien raisonner, sur le passage de cet amour premier à l'intention de vie. L'intention de vie implique une fin. Une fin qu'on découvre, c'est-à-dire, dans le cas présent, l'ami. Qui n'est pas encore l'ami, mais qui est une personne capable d'être l'ami. C'est vrai, dans l'intention, quand je choisis l'ami comme fin, il n'est pas encore l'ami. Il est la fin capable de polariser tout mon amour, capable de polariser tous mes efforts. Il n'est pas encore l'ami. Le moment où il est l'ami, c'est le choix. Nous le verrons après. Tandis que dans l'intention de vie, c'est une personne capable de me finaliser. Et alors, il y a à ce moment-là, à l'intérieur de ce premier amour confus, il y a une précision qui se fait. Et c'est là où l'induction joue. Je m'aperçois que cet amour de la personne est enveloppé de toute une quantité de biens sensibles, secondaires, relatifs. Le bien, quand il peut être relativisé, c'est-à-dire mis en relation avec un autre, n'est plus une fin, il est un moyen. Il devient un moyen. parce qu'il est relatif à un autre. Je vois qu'il y a une multiplicité de biens sensibles relatifs qui sont aimés en fonction de la personne, en fonction de l'autre. Vous n'avez qu'à réfléchir sur toute la quantité de biens secondaires qui enveloppent, qui entourent la personne qu'on aime. Et subitement, je dis bien subitement, l'intelligence découvre l'au-delà de tous ces biens sensibles pour découvrir à l'intérieur de l'amour un premier bien qui est le bien personnel absolu. Et comprenez bien, je le découvre parce que je l'aime déjà. Vous savez, la parole de saint Augustin par rapport à Dieu, c'est parce que j'ai déjà découvert Dieu que je le découvre. Il faudrait dire, c'est parce que je l'aime que je le découvre. Et je peux dire ça par rapport au bien spirituel que je considère comme ma fin. C'est parce que je l'aime que je le découvre comme ma fin, c'est-à-dire comme un bien qui s'impose à moi comme polarisant tous les autres, comme donnant à tous les autres leur signification. Tous les autres apparaissent alors à ce moment-là comme relatifs, comme secondaires, comme orientés vers, mais n'étant pas quelque chose d'absolu. Et je découvre ce bien comme fin à cause de l'amour que j'ai pour lui. Si je n'avais pas cet amour pour lui, je ne le découvrirais pas. Donc vous voyez bien que cette induction est une induction à l'intérieur d'une connaissance affective et dans une connaissance affective. Et à ce moment-là, ce premier amour prend une nouvelle force. Et ce premier amour se transforme en une intention. Je touche ce bien comme ma fin. Et je ne peux toucher ce bien comme ma fin quand il y a ce passage de l'amour à une intention. Et c'est pour ça que l'intention implique toujours un ordre. Ce bien polarise une quantité de biens relatifs, de biens sensibles, qui à ce moment-là apparaissent comme secondaires. Ils sont liés à ce bien absolu, mais ils sont secondaires. Ils pourraient disparaître, et le bien absolu demeurerait. Ils pourraient disparaître. Je vois que je suis en effet attiré à cause du regard, de la beauté du regard. Je suis attiré par la joie que me procure cette personne. Je suis attiré parce que chaque fois que je vois cette personne, elle me donne un petit chocolat. Alors, ça m'attire. Parce que chaque fois que je vois cette personne, elle a une petite délicatesse pour moi qui me touche, c'est que je pense à moi, c'est drôle, alors que tant une quantité d'autres personnes ne pensent pas à moi, je passe comme un étranger, donc là, ça me touche. Alors subitement, tous ces petits aspects deviennent secondaires, ils existent, ils sont dans le rayonnement du bien absolu, ils apparaissent secondaires. Alors qu'il y a un moment, quand l'induction n'est pas encore faite, ils sont liés. Je ne sais pas si j'aime cette personne pour elle-même ou à cause du chocolat qu'elle me donne. Je n'ai pas encore induit. Les faits et la source sont tellement liés. J'aime tellement le chocolat que je ne sais pas si mon amour à l'égard de la personne dépasse ce petit concupiscible. Parce que l'amour du chocolat, c'est du concupiscible, c'est passionnel. Vous voyez, l'induction implique le dépassement de l'amour passionnel vers l'amour spirituel. Et quand je dépasse tous ces amours passionnels, ils sont multiples, les amours passionnels, même un amour de bienveillance, cette personne fait attention à moi. C'est très bien d'être attentif à sa bienveillance, mais ce n'est pas encore l'amour qui me finalise. C'est plus noble d'aimer sa bienveillance que d'aimer le chocolat qu'elle me donne. C'est bien évident. Aimer sa bienveillance, c'est déjà quelque chose de spirituel. J'aime cette personne parce que chaque fois que je la vois, elle me dit quelque chose qui me réconforte, qui me fait du bien. Chaque fois que je vois cette personne, elle me dit quelque chose d'intéressant. La dernière nouvelle intéressante d'un journal vivant. Elle éclaire mon intelligence qui jusque-là restait. Vient à chaque fois, il y a quelque chose qui s'éclaire. Bon, c'est aimer la personne à cause de ses dons, à cause de ses cartes postales qu'elle tient en elle. Et chaque fois qu'elle fait un petit voyage, elle m'envoie une carte postale merveilleuse, étonnante, bien choisie. Beaucoup de goût. Elle me dit le petit mot exact, comme si elle savait la situation dans laquelle je suis. Alors, elle me donne toutes ces petites cartes postales. C'est merveilleux, tout son rayonnement, vous voyez. Alors, tout ça, c'est sa bienveillance. La bienveillance est spirituelle. Mais aimer quelqu'un à cause de ses dons, c'est pas encore une intention. Il y a des étapes successives dans cette induction. Il y a des étapes successives parce que c'est une induction affective, pratique, pas spéculative du tout. C'est une induction pratique. Je découvre la fin de façon pratique. Je ne la découvre pas spéculativement. Ce serait la métaphysique. Alors je ne découvrirai pas la fin, je découvrirai l'acte. C'est pas la même chose du tout. Je découvre la fin de ma vie à l'égard d'une personne que j'aime, ou l'acte. Donc c'est une induction qui se fait tout le temps dans l'obscurité de l'amour, mais en même temps dans la certitude de l'amour, et je pourrais dire aussi dans la lumière de l'amour. C'est quelque chose de très très particulier. Mais tout ce terrain qui d'habitude est assez opaque, philosophiquement, je réfléchis dessus. Je sais que je le vis d'une façon opaque à l'intérieur de l'amour. Et je peux découvrir, en effet, je fais ce discernement entre le bien relatif et le bien absolu. Entre des biens sensibles et un bien qui est au-delà, qui est une personne. Entre ses dons et la source de ses dons. Vous voyez, il y a plusieurs étages dans cette induction au plan pratique. Je crois que ce sont les différents étages. Si vous en voyez d'autres, il faut les noter. Moi, j'en mettrai trois. Parce que je crois qu'il y en a trois. Ce n'est pas une induction toute simple, hein. C'est une induction qui se fait progressivement, se fait lentement. Puis subitement, oui, c'est vrai. Cette personne, c'est elle que j'aime. Elle serait la plus malheureuse de toutes. Elle n'aurait plus aucune carte postale à m'envoyer. Elle n'aurait plus aucun don à me faire. Elle n'aurait plus la possibilité de me donner du chocolat. Mais elle resterait la même. Et ses yeux deviendraient des yeux qui se ferment, sans aucune beauté, sans aucune attirance, un objet devant lequel continuerai de l'aimer. À ce moment-là, je suis sûr d'atteindre un bien qui est ma fin. Tant que je n'ai pas fait cette expérience, j'en suis pas absolument sûr. Au point de vue connaissance affective. Parce que la connaissance affective est toujours un tout petit peu liée à la passion. Toujours un peu liée à l'imaginaire. Et donc toujours un peu obscure. Qu'est-ce qui oserait dire qu'il aime une personne pour elle-même, au-delà de tous les bienfaits qu'elle a fait? Je ne peux le dire que négativement. Alors je ne peux pas souhaiter ça pour être sûr que j'aime cette personne. Non, il faudrait que vous soyez complètement appauvri de tout, que vous soyez rejeté de tout le monde. Alors à ce moment-là, je serai fidèle, je vous aimerai malgré ça. Jean au pied de la croix. Marie au pied de la croix. À ce moment-là, il y a vraiment la finalité. L'induction affective se fait progressivement. Ça ne fait pas d'un seul coup. C'est à l'intérieur de ma vie pratique, de ma vie affective, que progressivement, parce que vous pouvez me dire, mais non, ça fait tout de suite, regardez le coup de foudre. Ah oui, mais le coup de foudre, c'est justement par l'induction. Le coup de foudre, c'est l'intuition affective qui n'est pas l'induction. Celui qui prétend vraiment avoir atteint le bien personnel parce que subitement il a eu un coup de foudre. Mais justement, le coup de foudre est très lié à l'imaginaire. C'est la séduction. J'ai été séduit par quelqu'un. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi admirable, aussi beau. C'est comme si elle était déjà canonisée. Il y a un halo affectif extraordinaire. C'est vrai, une présence de Dieu, une présence de Marie étonnante pour moi. Oui, ça c'est la séduction. Alors, il y a une espèce de coup de foudre inductif, ou plus exactement intuitif, pas inductif, mais intuitif. C'est une intuition affective qui fait que immédiatement je suis pris. Ordinairement, cette intuition a quelque chose de vrai, si mon cœur est limpide. Mais il peut aussi être très imaginatif. Et quand je m'approche, je m'aperçois, oui, il y en a très peur de s'approcher, parce qu'on a peur que l'idole disparaisse et qu'on voit la réalité. La réalité n'est pas tout à fait ce qui m'avait séduit. Or, il faut, pour aimer vraiment, être sûr que le bien personnel est bien ma fin. Et donc, ce n'est plus une séduction. C'est un bien réel. Vous voyez, toutes les purifications, alors c'est ça qui est intéressant ici, c'est de voir que cette induction implique des purifications. Et toute démarche inductive affective implique ces purifications. C'est curieux, vous voyez. L'induction, c'est une purification de l'intelligence. Ici, c'est une purification du cœur et de l'intelligence. Les deux sont liés. Pour arriver à être sûr que ce bien qui m'attire, ce bien qui me séduit est véritablement ma fin. Réfléchissez, hein, quand vous choisissez une intention de vie, de fait, vous passez par toutes ces phases. Alors, c'est pas très conscient, mais je crois qu'on peut le faire. Donc, voyez bien que nous sommes en face d'une induction d'un type très particulier. Puisque c'est une induction pratique, affective. Que cette induction est à la fois beaucoup plus simple que toutes les autres et plus obscure. Alors, je crois qu'on peut dire ceci. Si j'essaie de l'analyser, hein, quand vous la vivez, vous ne l'analysez pas. Mais si vous êtes un peu philosophe, et c'est bon de l'être, même en éthique, si vous êtes un peu philosophe, vous l'analysez. sacrement, je suis là en présence de ce qui me finalise. Prenez le phénomène de la vocation. Le phénomène de la vocation implique une intention de vie. Vous choisissez le Christ comme votre fin. Et vous prenez les moyens en vue de cette fin. Donc il y a une induction. Et c'est bon de réfléchir sur cette induction. Voilà les démarches que j'ai faites. Tant que vous ne faites pas ça, vous restez dans un halo affectif. Oh, je ne veux pas trop regarder, parce que si ça tombe, ça dégringole d'un seul coup. Alors souvent, l'aspect négatif, comme toujours dans l'ordre de l'amour, est beaucoup plus fort que l'aspect positif. Cette induction implique nécessairement quelque chose de négatif. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma fin. Alors il y a un aspect négatif. Alors essayons de comprendre, autant qu'on le peut, ce passage des biens sensibles qui sont des moyens par rapport à ce qui est la fin. Mais vous voyez que ces biens sensibles sont dénommés moyens au moment précis où je découvre la fin. Avant, ils risquent toujours un peu de m'engluer. Les biens sensibles sont aimés passionnellement et la passion risque toujours de m'engluer. D'une façon bonne, pas d'une façon nécessairement mauvaise. Mais je m'attarde. Le carpe diem, c'est quelque chose que je peux saisir immédiatement. C'est quelque chose de si agréable, c'est bien sensible. Tandis que lorsque je découvrirai la fin dans toute sa nudité de fin et dans tout son absolu de fin, alors tous ces moyens sensibles deviendront des moyens. Quelque chose de relatif. Il faudra l'appeler. Il faudra se mettre à genoux, s'arrêter. Oh, comme c'est bon cette eau, quand on a chaud. Comme c'est merveilleux. Oh, on va s'arrêter un tout petit, on va faire une pause. On va dresser sa tente. On est sûr, il y a une oasis là. Non, la pélo. Des moyens relatifs. C'est pas drôle du tout. Tous les châteaux de cartes qui dégringolent. Parce que j'ai découvert ma fin. Effectivement, hein, on a une frousse intense de découvrir la fin. Parce que ça exige toutes les purifications. L'appel. Alors, je crois que pratiquement, on peut dire, le passage des biens sensibles, aimés passionnément. On les aime passionnément. Et le chocolat fait partie de ces biens sensibles. Ou l'alcool, ou le tabac, ou la drogue, peu importe, hein. Ils sont nombreux, hein. Ils sont multiples. Ce sont des quantités de biens sensibles dans lesquelles je risque toujours de m'arrêter. Et ça, c'est la passion. Bon, il faut le passage sensible de ces biens sensibles au bien invisible. C'est pas drôle, un bien invisible. Pour la passion, c'est terrible. Parce que la personne, ce sont ses yeux que j'aime. Et la personne est au-dessus des yeux. C'est pas drôle du tout. D'arriver à ça, il n'y a plus de visage. Il n'y a plus de cheveux, on est tondu. C'est la télo, ça. Deuxièmement, donc les biens sensibles, le point de vue, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les signes, ce sont les dons, les petits cadeaux plus exactement, ce sont les cadeaux, les cartes postales, les cadeaux, tous les signes, qui m'arrêtent, que j'aime, qui sont bons, bon, pour découvrir la source. Très bien. Bon, après tout, il faut peut-être les laisser ensemble. J'aime pas tellement les purifier. J'ai toujours besoin de signes. Quelqu'un qui ne me donne plus aucun signe d'affection. Est-ce qu'il m'aime encore? Mais c'est comme quand vous êtes en face d'une chrysalide, vous ne savez pas si elle est vivante ou pas. Alors vous la touchez pour voir si ça réagit. Oui, parce que bon, il faut dépasser les signes pour toucher la source. Or, la faim, c'est justement ce qui est invisible, c'est justement cette source. Puis alors, ici, c'est les plaisirs. Remarquez que ça, ça fait partie de la passion, mais c'est l'aspect réflexif. Il faut dépasser cet aspect réflexif pour arriver uniquement à découvrir le bien fin absolu. J'aime le bien pour lui-même. Et c'est dans la mesure où je l'aime pour lui-même qu'il est ma fin. Tandis qu'ici, c'est pour moi. C'est tout l'aspect du concupiscible, où je l'attire vers moi, où je l'aime en fonction de moi. Tandis que là, il faut le dépasser. Je crois que dans l'induction affective, il y a cette triple purification. Il faudrait voir s'il y en a d'autres, parce qu'au fond, ça a été très peu étudié. Philosophiquement, l'induction affective. On dit tout de suite ça, très très bien, on est tous d'accord. Mais voyez comment ça se passe. Et ça se passe durant toute notre vie. Toute notre vie, le bien qui devient notre fin mobilise toutes nos forces et implique ses purifications. Si vous allez trop vite, voyez ce que ça fait.